Mais je suis content d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, j'ai prévu quelque chose d'un peu différent, d'un peu spécial. Donc, c'est sur le thème de l'amour. Alors, moi, je me souviens qu'il est écrit dans la Bible que Dieu est amour. Je ne sais pas si vous l'avez lu un jour. Il y a également écrit que parmi les vertus à rechercher, parmi les dons à rechercher, eh bien, l'amour est le plus grand. L'amour se situe au sommet de ce qu'on peut rechercher comme grâce et comme, je dirais, sanctification de la part du Saint-Esprit. Alors, si je parle de ce sujet, c'est que ce n'est pas un sujet facile. Déjà, avoir conscience de l'amour de Dieu n'est pas facile pour personne. Il y a des personnes parmi nous qui en doutent. Il y a même des chrétiens, après des années, qui en doutent, qui en souffrent. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que on ne voit pas Dieu, alors parfois la chair est là et il y a il y a ce qu'on appelle des tensions dans le cœur. Hein. Donc, avoir conscience d'être aimé par les autres aussi, par nos frères et nos sœurs, ce n'est pas si simple. Avoir conscience d'être aimé par nos proches, ce n'est pas si simple. Donc, d'en avoir conscience et de le vivre. Et puis aussi, ensuite, une fois qu'on a conscience d'être aimé, encore faut-il pouvoir à notre tour aimer. Donc vous voyez, tout ça c'est compliqué. Donc parler de l'amour comme ça en disant ben, je suis aimé, j'aime, c'est pas simple pour tout le monde. Et on arrive chacun dans nos vies, à des stades de nos vies, soit parce qu'on est soit étant converti, soit étant non converti, où on se questionne par rapport à l'amour. Donc moi c'est par rapport à ça que je voulais réfléchir ce matin avec vous. Alors, nous avons commémoré la mort et la résurrection de Jésus tout à l'heure en prenant la Sainte Seine. Eh bien, moi, je vous propose de commémorer, c'est se souvenir ensemble. Je vous propose de commémorer la façon dont Jésus nous a aimés lorsqu'il a été présent en chair et en os. Donc, Jésus s'est incarné, il a aimé d'une certaine façon, et c'est intéressant de se rappeler les différentes façons dont il nous a aimés. Ça peut nous donner une idée, donc, une fois qu'on a pris connaissance de ça, c'est une sorte de testament, ça peut nous donner une idée de la façon dont il nous aime aujourd'hui, qu'il est donc auprès de Dieu, à sa droite, assis à sa droite, comme c'est écrit dans la Bible. Donc voilà, c'est réfléchir sur l'amour. Alors, je vous propose un dispositif simple, mais participatif. Ici, j'ai 12 feuilles, 12 versets, c'est vous qui allez les lire. Moi, je vais juste être avec vous. Je vais les déposer ici ou je vais vous les remettre. Alors, je vois qu'il y a quatre travées. Donc, il me faut 3 volontaires par secteur. Vous allez venir ici, c'est numéroté. Vous allez venir donc dans l'ordre. Hein, et vous allez lire à vos frères et aux sœurs les versets. Et vous allez dire simplement une phrase, après avoir lu, Jésus a aimé en faisant ceci. Jésus a aimé, je dis n'importe quoi, Jésus a aimé en consolant les affligés. Voilà. Et au fur et à mesure que vous allez dire ces choses, nous allons inscrire vos conclusions sur le tableau. Et à la fin, ben, quand on aura lu les 12 versets, on aura une idée de ce que Jésus a pu, de la façon dont Jésus a pu aimer finalement ses contemporains. Ça va s'afficher ici. Donc même si ce n'est pas traduit exactement dans les mots que vous allez utiliser, ça sera très proche. D'accord? On fait comme ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Alors ne soyez pas timide. Si vous n'y arrivez pas, je vous aiderai. Ça va? Alors je commence par là. Il me faut 3 volontaires pour venir lire. Vous voulez lire? Allez, numéro 1. Vous voulez lire? Mademoiselle, vous voulez lire? Madame? Voilà. Hop. Ensuite, de ce côté-là, est-ce qu'il y a des volontaires qui voudraient lire? Est-ce que tu voudrais lire? Ouais? Très bien. Il me faut d'autres volontaires? Ouais, monsieur? Madame? Et il m'en faut un autre ici, une dame si possible, jeune fille, madame, vous voulez lire? Voilà. Voilà. Alors, ici, est-ce que j'ai des volontaires? Là. Voilà. Volontaires. Oui, je ferai passer le micro. Merci. Alors, quelqu'un veut lire ici? Oui, très bien. Alors, le 11, pardon. Et il me faut un volontaire ici. Voilà. Viviane. Donc, c'est parti. Le numéro 1 vient. La personne qui a la feuille où il y a inscrit le numéro 1 s'approche et va lire.
Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour ces gens et à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour ces 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. Il y a dans les lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, un nombre d'environ 5 000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. »
Alors, que Jésus a-t-il fait ici? Comment a-t-il montré son amour envers... les gens.
Oui. En les nourrissant, voilà.
En les nourrissant, exactement.
En leur apportant de la nourriture.
Très bien, merci. Votre prénom, c'est ?
Jean-Marc.
Jean-Marc, merci Jean-Marc. Alors, c'est écrit ici, merci. Donc, Jésus a aimé, en son temps, en nourrissant les foules. On peut imaginer qu'il nous nourrirait aujourd'hui, peut-être en esprit, hein, parce qu'on parle des nourritures terrestres, mais il y a également les nourritures spirituelles. Alors, le numéro 2. Ton prénom ? Nicolas, merci.
Donc c'est Marc, chapitre 2, versets 4 à 12. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui était assis et qui se disait au-dedans d'eux. « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifier Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Dans ce passage, on va faire ressortir le pardon des péchés.
Merci Nicolas. Il y a autre chose ?
À vous de participer maintenant, je ne suis pas le seul.
La guérison d'un paralytique. Donc là, il y a eu deux, merci Nicolas, deux réponses justes. Voilà, donc, guérir les infirmités, il ne s'agit pas d'une maladie, hein. C'est une infirmité, c'est pas pareil. Et pardonner les péchés. Alors, candidat numéro 3. Alors, ton prénom ?
Eddie.
Merci.
Alors, Luc 8, 43-48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tous ses biens pour les médecins sans qu'aucun pût la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit : Qui m'a touché ? Comme tous s'en défendaient, Pierre, ceux qui étaient avec lui, lui dirent : Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis : Qui m'a touché ? Mais Jésus répondit : Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, va toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix.
Alors il dit :
Oui.
Comment Jésus a aimé dans cette situation ?
En la guérissant, la femme.
Oui, d'une maladie.
Oui.
Oui, par la foi. Et quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il lui donne d'autre ? En témoignage de son amour ? La paix. Il lui dit : Va en paix.
Oui.
C'est merveilleux ça aussi. Vous savez, c'est bien beau d'être guéri, mais le corps est guéri, mais il faut que le cœur également soit apaisé. Donc il lui communique sa paix. Merci beaucoup. Voilà, c'est inscrit donc sur les écrans, donc guérissant les maladies et en donnant sa paix. Ça fait déjà 5 façons de démontrer son amour aux hommes. D'accord ? Donc on en est au numéro 4. Alors, ton prénom ? Merci.
Donc c'est Luc chapitre 8, versets 41 à 42, puis Luc chapitre 8, versets 49 à 55. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant : Ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue : Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit : Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte : Enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Donc, c'est clairement la résurrection de la fille de Jaïrus.
Mmh, très
et
bien.
Je dirais aussi la foi en fait en Jésus-Christ pour cette résurrection.
Oui. Mais qu'est-ce qu'il communique, Jésus, en plus de ressusciter cet enfant ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il communique à ces gens-là qui sont là ?
Oui.
Il y a des passages qui le disent. Ils disent : Ne pleurez pas, elle n'est pas morte. En disant ça, il console,
oui.
Il rassure. Vous voyez ? Et il dit encore ici, elle n'est pas morte, elle dort. Il est rassurant, il console. Et vous savez combien on a besoin d'être consolé aussi. Mm-hmm. Donc, merci Maria, tout, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est tout à fait.
Merci beaucoup. Vous voyez, donc, souvent on se concentre sur les faits, c'est-à-dire Jésus a guéri, Jésus a ressuscité, mais on a besoin de plus. On a besoin de plus. Ça, c'est la guérison du corps. Mais Jésus associe souvent la guérison du corps à un baume qu'il met sur nos cœurs. Et ça, ça compte aussi. Parce que pour pouvoir poursuivre sa route, après un tel traumatisme, après des années d'infirmité, des années de maladie, il ne suffit pas d'être guéri. On en garde des marques. Quand on reçoit la paix de Jésus, quand on reçoit sa consolation et qu'on est rassuré par lui, ça nous donne de l'énergie pour marcher, parce que de nouvelles épreuves nous attendent. Et ça, c'est important de noter ces éléments-là, voyez. Pas être aveuglé que par le miracle. Jésus parle aux gens, il leur dit des choses, il leur communique une force. Alors, c'est le numéro 5 maintenant.
Alors, les références, c'est Jean, chapitre 4, versets 3 à 10. Alors Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire !» Car ses disciples étaient allés en ville pour acheter du vivre. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire ?» À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui le dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »
Alors, comment est-ce que Jésus a aimé dans cette situation ?
Il prend soin du côté corporel, physique, des gens. C'est-à-dire, c'est profond.
Et la Samaritaine, elle représentait quoi par rapport aux Juifs ? Qu'est-ce qu'il y avait comme relation entre les Juifs et les Samaritains à cette
époque-là ? Ça n'allait pas du tout.
Voilà. Donc, on peut dire que les Samaritains étaient des personnes méprisées, des personnes rejetées parce que les Juifs considéraient qu'ils n'étaient pas dans la bonne religion. Donc la conclusion, c'est quoi ? C'est que Jésus va vers ceux qui sont rejetés, méprisés et dont on pense qu'ils ne sont pas dans la bonne voie. Oui, c'est un esprit de réconciliation, d'accueil qui est manifesté ici. Merci. Alors, le numéro 6, ton prénom ? Albert.
Bonjour à tout le monde. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 19, au verset 1er jusqu'au 10e. La Bible déclare ici, je vois, dans le verset 19, dans le chapitre 19, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicans, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmurent et disent, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, j'ai donné aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui ai rend les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Merci Albert. Alors, comment est-ce que Jésus a aimé ?
Si je vois bien dans cet contexte, le Seigneur, il n'était pas venu pour des justes, en fait. Il était venu pour des pécheurs. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
C'est ça, exactement. Donc Jésus accueille un pécheur. Même, quand bien même tous les autres critiquent, voient d'un mauvais regard l'attitude de Jésus. On dit que Jésus est entré chez un homme pécheur, un homme de mauvaise vie. Vous vous rendez compte ? La réputation de Jésus, Jésus n'en a pas tenu compte. Il est rentré chez un homme pécheur. Et moi, ce qui m'impressionne dans ce passage, c'est que Jésus ne lui a fait aucun reproche. Il ne lui a rien dit du tout, rien. Il a dit, il faut juste que je demeure chez toi. Et regardez le résultat. Le cœur de l'homme s'est ouvert tout seul. et on ne lui a rien demandé. Et ça, c'est merveilleux. C'est un miracle, croyez-moi. C'est un miracle autant que la guérison d'un paralytique ou la résurrection d'un mort. Pour que le cœur de Zachée ait pu s'ouvrir comme ça, c'est vraiment un miracle. Et Jésus n'a pas parlé. Tu voulais rajouter quelque chose, Albert?
Non, justement, je voulais juste rajouter quelque chose, en fait, à propos de la parole aussi. En fait, le Seigneur, il a donné toute sa vie à la croix Golgotha pour sauver l'humanité. Le Fils de l'homme, il a consulté le séjour des morts et la mort, et au troisième jour, il avait déclaré qu'il était ressuscité d'entre les morts, sorti vivant du tombeau. Et du coup, ce n'est pas quelque chose qui est facile. C'est cet amour. Vraiment, franchement, quand j'ai lu la Bible, ça m'impressionne. Cet amour, c'est inimitable, en fait. Cet amour, on ne peut pas le trouver nulle part ailleurs à un humain. Ce n'est que le Seigneur qui peut avoir cet amour.
Amen.
C'est ça que je suis sexué, rajouté pour ça.
Amen. Merci, Albert. Oui. Alors, numéro 7. Alors, vous voyez, on en est déjà à 9 témoignages d'amour. Zachée était un voleur. C'était aussi un traître, parce que dans le contexte de l'époque, il était, si vous voulez, c'était un collaborateur, un collabo. Il collaborait avec l'Empire romain, qui était l'envahisseur. Imaginez le regard que les Juifs pouvaient avoir sur lui. Donc, Jésus va vers les rejetés, les Samaritains, mais il va aussi vers les voleurs, vers les traîtres, vers les collabos, vous voyez. C'est là qu'on voit quand même que Jésus va loin, quoi. Dans sa démarche, il va très loin.
Alors c'est Jean 8, 3, 10. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Et il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. »
Merci. Alors, comment est-ce que Jésus a aimé cette fois-ci ?
En lui pardonnant, en la relevant, en lui donnant une autre chance, alors je ne sais pas comment...
Oui, c'est ça. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Alors moi, j'ai noté en plaidant pour elle.
Ouais.
Plaider, ça veut dire défendre quelqu'un. Un avocat défend. Vous savez que Jésus est l'avocat. C'est écrit dans la Bible, ça. Hein. C'est un avocat. Il défend. Il nous défend maintenant, alors qu'il est à la droite du Père. Il nous défend lorsqu'on est en faiblesse. Mais il nous a défendus... Quand il était parmi nous, il a plaidé pour une malheureuse. Il a plaidé pour elle. Mm. Attention, elle risquait sa vie. Hein.
Eh oui.
Il a plaidé pour qu'elle ait la vie sauve. Mm. Donc il a défendu, il a relevé aussi. Il lui a donné une nouvelle chance. Ça, c'est merveilleux. Merci. J'aimerais juste faire une petite remarque concernant ce verset qui me heurte beaucoup, en fait. C'est qu'à chaque fois, il semblerait que ce soit les femmes qui soient en tort aux yeux des hommes. Et on voit ça dans la Bible, hein, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Par exemple, excusez-moi, si moi je surprenais aujourd'hui un homme et une femme en flagrant délit d'adultère, ben, il me semblerait qu'on ne peut pas commettre un adultère tout seul. Mais je me suis toujours demandé, mais pourquoi donc est-ce que les Juifs ont attrapé cette femme, mais on ne voit pas l'homme ? Où était-il l'homme ? Qu'en ont-ils fait ? Où a-t-il disparu ? on traîne devant des tribunaux une femme, mais l'homme qui était là et qui couchait avec cette femme et qui était lui aussi adultère, puisque cette femme était probablement mariée. Donc un homme qui couche avec une femme mariée est adultère. Donc il était adultère aussi. On n'en parle pas dans la Bible. Et les scribes, les pharisiens n'en parlent pas. Ne l'accusent pas cet homme. Et là, il y a une injustice. Il y a un regard qui est faussé sur la femme. Et je regrette, on n'a pas à poser un tel regard sur les femmes. Les femmes ne sont pas plus pécheresses que les hommes en matière de sexualité. Ça, c'est une erreur. Et souvent, il y a cette image qui est collée à la femme. Donc je me permets de rétablir ça parce que, voilà, c'est important.
J'avais aussi la pensée qu'au travers de ce passage, qu'il y a aussi une volonté de l'amour de Dieu qui vient briser les codes et les lois, en fait.
Exactement.
Voilà. Qui vient vraiment à l'encontre des pensées que l'homme a instituées.
Exactement. De l'étroitesse d'esprit, en fait. Alors, nous en sommes au numéro 7. Nous passons au numéro 8. Alors, ton prénom ? Mazarine, merci. Alors, tu peux lire devant l'assemblée.
C'est Jean 13, du verset 3 à 5, puis Jean 13, du verset 14 à 15. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je pense que ici, le Seigneur Jésus, il nous donne l'exemple.
Quel exemple ? Il nous aime comment ? Il nous montre qu'il faut nous aimer de quelle façon ?
Les uns et les autres.
Oui, mais comment ? Oui,
servant.
En nous servant, en servant, étant au service, en prenant soin, on peut dire. J'aime bien cette formule. En prenant soin des autres, en prenant soin de ceux qui sont autour de nous. Eh bien, merci. Donc, en prenant soin, prendre soin. Laver les pieds n'est pas une chose simple. Ouais, laver la tête, mais laver les pieds, pardon ? L'humilité. Donc, il y a une démarche d'humilité, puisqu'on se baisse. Pour être au service, quand on se baisse, on est à la merci de quelqu'un, on peut recevoir un coup, on est dans une situation d'humilité. Et puis, il y a le service, il y a prendre soin de l'autre. Dans le détail, laver les pieds, il y a des croûtes, etc. Attention, hein, c'est pas évident. Donc Jésus le fait. D'ailleurs, Pierre s'offusque, puisqu'il ne voudrait pas que Jésus le fasse. Mais Jésus lui dit, attention, tu n'auras pas de part avec moi si tu n'acceptes pas que je te lave les pieds. D'accord ? Se laver les pieds, c'est aussi l'image de la poussière qu'on peut avoir. Donc en fait, ça veut dire être conscient que son frère ou sa sœur a des défauts, a des péchés, peut commettre des péchés, mais les laver avec lui, c'est-à-dire être enclin à partager avec lui sa peine et l'encourager. C'est aussi ça que ça veut dire. Donc c'est participer à la vie de l'autre dans son intimité en l'aidant. Voilà, ce qui n'est pas simple. Vous avez dit en début que l'amour n'était pas simple. Ouais, c'est facile, mais ce n'est pas simple. Donc, neuvième verset, Nathalie.
Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, « Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. »
Alors, Nathalie. Alors,
quand je lis ça, moi, je vois que Dieu sait tout, que quelles que soient les paroles ou les convictions qu'a Pierre. Et...
Mais en lui disant, « Paie mes agneaux », qu'est-ce qu'il dit à Pierre, en fait ? Il lui manifeste quoi ? Comment est-ce qu'il aime Pierre ? sachant que Pierre a renié Jésus juste avant. Oui, il lui renouvelle sa confiance. Et en plus, il lui confie une responsabilité. Imaginez, quelqu'un vient de vous trahir, aussitôt, vous non seulement vous lui pardonnez, vous lui renouvelez votre confiance, mais vous lui confiez une charge. Il faut le faire, hein. En général, on me dit, on va attendre, hein. On va prendre le temps, on va voir ce qui se passe. Voilà Nathalie, merci. Voilà, donc Jésus, ici on est au 12e point. Jésus nourrit les foules, guérit les infirmités, pardonne les péchés, guérit les maladies, donne sa paix, console, rassure, réconforte, ressuscite les morts, va vers les rejetés, les méprisés, va vers les voleurs, les gens de mauvaise vie, plaide pour les adultères, c'est un avocat, se faisant serviteur, prenant soin de ceux qui lui sont donnés à aimer. Et là, le 12e point, il renouvelle sa confiance. On peut dire qu'il confie, c'est-à-dire qu'il responsabilise, il donne des responsabilités. Donner une responsabilité, c'est un signe de confiance. Donc il renouvelle sa confiance, mais il fait confiance donc. Et il le prouve puisqu'il donne une mission à Pierre. Paix mes agneaux, vous voyez, c'est concret. Alors nous en sommes, je crois qu'on va arriver à il en reste trois versets, donc numéro 10. Et en attendant, vous allez réfléchir, parce que là, quand on aura fait le tour, on aura à peu près, je dirais, 13 points ou 12 points. Vous allez dire si on en a oublié.
Alors, Jean 14, 2, 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Eh bien, c'est Jésus nous montre qu'on est un peuple élu, et qu'il y a une demeure dans le ciel. Et c'est vraiment un amour pour son peuple qu'il aime, et que quand il est remonté au ciel, il nous a préparé une place. C'est quand même un cadeau immérité d'avoir une place, et qu'on sera à ses côtés, et qu'on louera et on chantera pour Dieu. Et c'est vraiment par amour, parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Et c'est ça qui est important de son amour. Jean 3, 16, ça résume tout.
Très bien. Donc ici, Jésus nous aime tellement qu'il nous veut avec lui et qu'il nous prépare un avenir. Donc Jésus nous aime en quoi ? En nous préparant une place, donc un avenir avec lui, un avenir éternel.
Et surtout, il nous dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Merci Pascal. Allez, donc c'est le numéro 13 ici. Jésus nous prépare un avenir. Nous aime comment ? En nous préparant un avenir éternel. Alors nous passons à l'avant-dernier verset, numéro 11. Alors votre prénom ? Gaël ? Tenez.
Matthieu 26, 36, 39. Là-dessus, Jésus alla vers eux dans un lieu appelé Gethsémané. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Merci. Alors ici, comment Jésus montre son amour ?
Jésus montre son amour en faisant ce que son Père veut et non ce qu'il veut.
Oui, c'est exactement ça. En obéissant à Dieu.
Oui.
En se soumettant à la volonté de Dieu et non pas à la sienne.
Oui.
C'est une façon d'aimer aussi. Ce qui n'est pas facile du tout, croyez-moi. Merci beaucoup Gaël. Tu veux rajouter quelque chose ? Bon, mais merci. Donc, moi, j'ai résumé ça en Jésus nous aime, nous a aimés en donnant sa vie pour le salut. Et donner sa vie, il a fait en obéissant. Alors, j'ai dû résumer parce qu'il n'y a pas beaucoup de place après, vous savez, sur la diapo. Donc, il fallait bien essayer de raccourcir les phrases. Alors, numéro 12, Viviane, et ça sera le dernier verset.
Luc 23, versets 33 à 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et leur tirèrent au sort. Jésus a montré son amour en se sacrifiant. En ces moments, il n'y a personne qui peut se sacrifier comme Jésus en montrant l'amour.
Exactement. Alors, il y a une autre chose qu'il a fait ici, même au dernier moment, juste avant de mourir. Il démontre encore.
Il montre encore qu'il faut pardonner.
Voilà. Alors qu'il est à l'article de la mort, alors qu'il va mourir lui-même.
Voilà.
Il demande au Père de pardonner. Mais je pense que lui-même, s'il le demande, c'est ce qu'il souhaite.
Oui.
Donc il est d'accord avec le Père pour pardonner. Merci Viviane. Donc voilà, nous avons terminé. J'espère que vous avez pu noter qu'il y a quand même 15 points, et pas des moindres. Est-ce qu'on en aurait oublié? Alors, quand je pose cette question, j'ai la réponse. Bien entendu, on a oublié. Il y a bien d'autres façons dont Jésus nous a aimés. Le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de faire le tour. Il va falloir que chacun rentre chez soi, mais... Quelqu'un voudrait dire, rajouter des points, oui. Comment est-ce que Jésus a pu nous aimer autrement? Autrement que ce qui vient d'être dit?
Jésus, dans Jean 15, a dit à ses disciples, « Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que le Père m'a appris.
Oui. »
Donc par amour, il a appris aux disciples tout ce qu'il savait de son Père.
Amen, merci. Quelqu'un veut rajouter quelque chose?
Je voulais juste rajouter que... Lorsque Jésus était en croix, il s'est préoccupé plus des autres que de lui-même, à savoir, il s'est préoccupé du sort d'un des condamnés avec qui il était, et il s'est occupé de sa mère en la confiant à Jean. Et donc, voilà, juste dire que, alors qu'il souffrait, qu'il était en mauvaise posture, il était encore en train d'aider ceux qui étaient proches de lui.
Alors voilà, c'est un plaisir pour moi d'avoir pu faire ce partage avec vous. J'espère que ça vous a un tout petit peu changé, puis ça nous donne quand même des pistes, hein, pour aller plus loin. Alors moi, j'aimerais conclure en une phrase toute simple. C'est que souvent, on attribue la passion du Christ, vous avez certainement entendu cette expression, la passion du Christ, et on l'attribue, on l'associe, vous savez, à sa mort sur la croix. Bien moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que dire que Jésus nous a aimés en mourant pour nous, moi, ok, ça c'est vrai. Mais il nous a aimés, mais en acceptant de venir sur la terre. Quand le Père l'a envoyé, personne. D'ailleurs, le Père, on peut même pas dire que le Père l'a envoyé. Il a dit, je donne de moi-même ma vie. Il a dit, personne ne me l'arrache la vie, je la donne moi. C'est-à-dire, il a décidé, lui, en accord avec le Père, de venir. Personne ne l'a forcé. Quand il a décidé de s'incarner, il a commencé à aimer. Quand il a décidé de venir dans cette apesanteur-là, de vivre dans un corps de chair, il a commencé à être passionné. L'amour était déjà là. Il avait... était investi cet amour. Et après, tout ce qu'on vient de voir, c'est sa passion. On ne peut pas dissocier ce que Jésus a fait de son vivant en disant « Oh ben ça, c'est pas grave, c'est rien. Ben, il est mort pour moi, c'est le plus important. » Si on enlève ça, Jésus n'est pas mort pour vous. Si on enlève tout ce qu'il a fait avant, on coupe ce que Jésus a donné, mais depuis le ciel. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas avant et après. Il n'y a pas « Ah, il est mort, ça y est, c'est fait. » Non. Il a commencé à donner sa vie dès le premier jour où il a accepté de venir. Il a donné sa vie au sens large. Il a exposé sa vie. Il s'est aussi dépouillé de sa gloire. Ça, c'est donner sa vie. Donner sa vie, c'est donner au sens large. Ce n'est pas juste mourir. Ça, c'est quand il a donné sa vie, il a expiré, il est mort pour nous, c'est le point le plus culminant. C'est le point le plus haut, il ne pouvait pas aller plus loin. Mais en attendant, mais il a marché, il a eu soif, il a eu faim, il n'avait pas d'endroit où déposer sa tête, il a partagé la misère des gens, leur peine, il a été avec les gens, il a exposé sa vie, il a donné sa vie. Donc moi, j'aimerais qu'on retienne ce matin que Jésus a donné sa vie au sens large dès le moment où il a accepté, dans le ciel, de venir. Et sa passion, qu'on appelle la passion du Christ, alors ce n'est pas vraiment une expression protestante ou de chez nous, on voit plutôt ça dans d'autres dénominations, mais bon, ce n'est pas grave, cette expression est intéressante quand même, parce que la passion, c'est un amour puissant. Eh bien, je trouve que c'est intéressant de l'associer à tous les petits détails qui montre combien Jésus nous a aimés. Voilà, c'est ça la passion du Christ. Ce que je voulais vous communiquer, c'est ma façon de le voir. Hein. Après, chacun est libre. Mais je voulais le voir avec vous parce que ça nous encourage. Voilà, c'était avant tout pour vous encourager, pour dire que Jésus nous a aimés. Et il continue de nous aimer. Et il continue, ça ne change pas. Et le Saint-Esprit est là pour nous le rappeler. Et il y a tellement d'éléments pour nous soutenir dans notre marche. Et je trouve ça encourageant. On a tous besoin d'être encouragés par rapport à cette question de l'amour. Voilà. Amen.